Quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 2003. Au programme, José Bové file en prison, Yvan Colonna aussi, Bernard Loiseau se suicide et les Rolling Stones dynamitent l'Olympia.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
En 2003, José Bové est le leader charismatique de la Confédération paysanne. Il vient de passer 44 jours en prison pour le démontage d'un McDonald's à Millau dans l'Aveyron. Et en février 2003, il faut qu'il y retourne. Il est rattrapé par son passé, car 2 ans plus tôt, il a arraché un champ d'OGM.
José Bové était au Salon de l'Agriculture hier après-midi lorsqu'il a appris la décision de la Cour d'appel de Montpellier. Le leader de la Confédération paysanne a été condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir saccagé des cultures OGM. José Bové a annoncé tout de suite que son combat allait continuer et il en a appelé à Jacques Chirac pour qu'il lui accorde sa grâce présidentielle. L'Élysée a répondu que toute décision était prématurée. Pour le ministre de la Justice, Dominique Perben, José Bové s'en est plutôt bien sorti.
Première observation, la Cour d'appel a réduit les condamnations de M. Bové, puisqu'il était à 14 mois, il est passé à 10 mois ferme. Donc ça n'est pas seulement un détail, puisque ça veut dire qu'il est passé en dessous d'un an, et ça veut dire qu'il a la possibilité, s'il le souhaite et si bien sûr il le demande, de demander donc au juge de l'application des peines d'aménager sa peine. C'est un point, je crois, extrêmement important. Quant à la grâce présidentielle, il s'agit d'une prérogative strictement présidentielle et il ne m'appartient pas de faire de commentaires là-dessus. La grâce présidentielle n'intervient que lorsque toutes les procédures ont été en quelque sorte épuisées.
Et sur le fait que José Bové dise que le combat continue et qu'il demande en même temps une grâce présidentielle, vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire ?
Écoutez, s'il y a une instruction de sa demande de grâce, bien entendu, c'est un élément qui ne peut pas échapper aux magistrats qui instruiront la demande. Monsieur Bové est seul responsable de ces déclarations.
4 mois plus tard, aucune grâce présidentielle. Et le 22 juin 2003 à l'aube, les gendarmes investissent sa bergerie de Potensac, pas loin de Millau. Et ils emmènent José Bové en prison. Ses amis jouent les surpris.
Moi, je rentrais chez moi comme c'était la fête de la musique. Et, donc, j'ai vu un hélicoptère, je trouvais ça bizarre. À 6h du matin, un dimanche matin, un hélicoptère. Donc, je suis allé à Potensac sans vraiment y croire parce que je pensais pas que ça pouvait arriver. Et c'est là où j'ai vu avec stupeur le cordon de garde mobile qui bloquait le passage pour éviter qu'on puisse passer. Et ensuite, il y a un hélicoptère qui a atterri, qui a redécollé. Donc, c'est cet hélicoptère qui a embarqué José. Et ensuite, les gendarmes mobiles se sont repliés, mais c'était très très chaud. Et nous, on n'était que 3. Je pense que l'opération a duré 10 minutes. Un quart d'heure, quoi, ça a été très rapide.
Il était quelle heure? Il était très tôt, c'est ça?
Ça devait être 6h, 6h05.
Et José Bové, lui, était enfermé dans sa maison?
Comme tout le monde, quand on dort, il avait fermé la clé, oui. Mais ils ont défoncé la porte. On a l'impression qu'on a affaire à un grand terroriste ou un grand bandit, tenu anti-émeute, le FAMAS, les matraques, les boucliers. On voyait qu'ils étaient chauds, quoi. Il fallait pas trop les énerver, sinon ils nous fonçaient dessus.
À gauche, du Parti communiste au Parti socialiste, l'arrestation musclée de José Bové provoque un tollé. José Bové est écroué à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Et très vite, ses amis viennent le soutenir.
Libérez José ! Libérez José !
Des slogans, le chant des partisans ou l'international, quelques bousculades avec les CRS, ils étaient 600 environ hier soir rassemblés devant la maison d'arrêt. Beaucoup de syndicalistes, des altermondialistes, des élus et aussi des anonymes comme Germain. Germain qui travaille chez Emmaüs vient de Pau pour soutenir le porte-parole de la Confédération paysanne.
C'est totalement inadmissible et je crois que c'est comme l'année dernière, au moment de la période estivale, on incarcère José Bové, mais ce qui est plus grave, c'est incarcérer une parole syndicale, une parole de lutte contre la misère et je trouve ça inacceptable. Et nous, Emmaüs, c'est tout à fait logique qu'on se joigne à ce combat et qu'on soit totalement outré de cet emprisonnement. Non, non, non. Il y a une erreur là. C'est une grosse erreur que font les politiques aujourd'hui de vouloir nous étouffer et anéantir la base. C'est une erreur.
Parmi les manifestants, une personne plus émue que les autres, Ghislaine. Elle arrive, un sac de voyage à la main, quelques vêtements, des affaires de toilette et quelques livres. Ghislaine est la compagne de José Bové. Elle est révoltée.
Une révolte qui me semble légitime et qui va s'exprimer, je crois, partout en France. On ne peut pas rester comme ça, rien dire, quoi. Sur la méthode, sur le fait d'incarcérer un syndicaliste à 6h du matin, quand on ne s'y attend pas. Bon, l'hélicoptère, c'était peut-être beaucoup, les chiens aussi. Mais bon, c'est une paraît que c'est marqué méthode normale sur le papier. C'est un truand, c'est quoi? Pourquoi est-ce que s'acharner comme ça?
Cette démonstration de force du gouvernement choque aussi Marie-Christine Etelin. Normal, c'est l'une de ses avocates.
C'est un procédé qui est totalement disproportionné avec le résultat obtenu. Je veux dire que nous sommes confrontés depuis quelque temps à un gouvernement qui fait du spectacle, et y compris dans cette affaire, on voit qu'il montre qu'il est le plus fort, qu'il agit par la force, même pour exécuter une décision de justice. Nous disons qu'une infraction a été commise et que cette infraction porte nom, qu'elle s'appelle violation de domicile, et nous réservons de déposer plainte pour cette infraction. Oui, ça certainement.
Au final, José Bové passe un mois et demi en prison, et puis sa peine est aménagée et il rentre chez lui.
José Bové a donc retrouvé sa liberté d'agir et il en est évidemment ravi.
Quand j'ai vu toutes ces personnes qui m'attendaient dehors, j'ai pensé à tous ces gens qui se sont mobilisés pendant toutes ces semaines, tous les jours, en faisant le tam-tam devant la prison ou en manifestant à travers la France et le monde entier jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Si le parquet n'a pas fait appel, c'est que le dossier sur le fond était tout à fait correct et que donc ce qui m'arrive aujourd'hui, eh bien, en droit, peut arriver pour l'ensemble des détenus. Je suis satisfait aujourd'hui de voir que le droit triomphe et que je n'ai pas été victime d'une basse opération de politique comme ça l'a été le jour de mon incarcération où j'ai été enlevé de chez moi en hélicoptère à 6h du matin. Pour moi, il est clair que le combat continue. Je l'ai toujours dit, qu'on n'enferme pas des idées et que le fait d'être en détention n'a absolument rien enlevé à ma combativité et que ce n'est pas parce que j'étais incarcéré que je changeais d'avis et que je pensais que le combat devait s'arrêter.
José Bové veut continuer le combat à Cancun, au Mexique, où se tient la conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il est interdit de quitter le territoire. Alors, à défaut de Cancun, au Mexique, Bové tient son meeting à Cancun, dans le Lot-et-Garonne. Laurent Guimier y est pour Europe 1.
Il avait bien préparé son coup, José Bové. En plein meeting, il s'arrête au milieu de son discours, sort son portable, compose un numéro. Au bout du fil, un collègue paysan qui, lui, vient tout juste d'atterrir à Cancun. José Bové pointe son micro sur l'écouteur, on n'entend presque rien, mais ça y est, Cancun est relié à Cancun. Un sourire malicieux sous la moustache, un tonnerre d'applaudissements sur la place du village. Bové, la vedette, tire même profit de son interdiction d'aller au Mexique.
Mon billet d'avion a été pris et comme je n'ai pas pu me rendre à Cancun, nous avons remis l'argent de ce billet aux organisations paysannes mexicaines pour qu'elles puissent affréter encore plus d'autobus pour amener les dizaines de milliers de paysans qui demain vont encercler Cancun. Alors je remercie M. Perben et M. Raffarin. En m'empêchant d'aller à Cancun, eh bien ils permettent encore à des centaines de paysans de plus d'aller manifester contre les pays les plus riches.
C'était Crazy Love, tube planétaire de Beyoncé et Jay-Z en 2003.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
En 2003, le procès du commando accusé d'avoir assassiné le préfet Claude Erignac en Corse approche. 8 hommes vont comparaître. Le 9e, Ivan Colonna, est en cavale depuis 4 ans. Avant l'ouverture du procès, la veuve du préfet, Dominique Erignac, est au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1.
8h20, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Madame Erignac.
Oui, il est exceptionnel que vous interveniez ainsi en direct. Madame Claude Erignac, merci d'être là et bienvenue.
Merci de me recevoir.
Mais c'est tout à fait normal et je vous accueille d'ailleurs avec émotion et estime pour le symbole que reste le préfet Claude Erignac, votre mari. Les Français n'oublient pas.
Non, les Français n'oublient pas. J'ai reçu au moment de la mort de mon mari beaucoup de témoignages. Et ces témoignages régulièrement continuent à m'arriver. Et c'est vrai que cela m'aide. J'ai le sentiment que, si vous voulez, tout ce qui touche mon mari et moi-même et mes enfants nous dépasse et touche tous les Français.
C'était il y a 5 ans, la nuit du vendredi 6 février à Ajaccio. Ça avait été un choc pour tout le pays. Et chaque début d'année doit vous faire vivre une période douloureuse. En y pensant, ou vous y pensez tout le temps comme une obsession qui ne vous quitte pas?
Vous savez, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une période douloureuse. Et puis, c'est après souvent les fêtes de Noël, de jour de l'an. Et au fond, tout ça, ce sont des moments très nostalgiques et arrive en plus après l'anniversaire de la mort de mon mari, pour lequel on doit, mes enfants et moi, beaucoup se mobiliser. Donc c'est vrai que ce sont des périodes difficiles, parce qu'on est quand même seul.
5 ans plus tôt, Claude Erignac a été le premier préfet assassiné en France. Ça s'est passé en pleine rue, à Ajaccio, alors que le préfet se rendait au théâtre. Claude Erignac a été abattu de 3 balles de 9 mm, une balle dans la nuque et 2 dans la tête pour l'achever.
Et à votre avis, pourquoi nous nous sentons concernés?
Eh bien, parce que mon mari était un représentant de l'État, un préfet de la République. Donc, il était un peu un symbole, le représentant du gouvernement. Et il représentait des valeurs.
Jusqu'au sacrifice.
Et jusqu'au sacrifice, oui, malheureusement.
Depuis 4 ans, Ivan Colonna, le 9e membre identifié du commando de tueurs, est en fuite. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a juré à Madame Erignac et à ses enfants qu'il rendrait le fuyard à la justice.
Apparemment, il vous informe régulièrement de l'enquête policière en Corse.
Oui, Monsieur Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, me reçoit régulièrement.
Il vous raconte.
Je le sens, ouais. Je le sens motivé pour trouver l'assassin présumé de mon mari.
Il y a de nouveaux indices, il y a des signes, quelquefois?
Écoutez, ça, moi, je lui laisse la parole pour parler de tout ça. Je pense que c'est pas mon rôle.
À l'approche du procès, ça bouge. La section antiterroriste qui recherche Ivan Colonna depuis 4 ans perquisitionne chez ses proches.
Des téléphones portables et des disques durs d'ordinateurs, c'est tout ce qu'ont saisi les policiers qui ont mené 8 perquisitions hier matin à Cargès, en Corse du Sud, chez les proches d'Ivan Colonna. L'assassin présumé de l'ancien préfet Claude Erignac est en fuite depuis maintenant plus de 4 ans. Le matériel qui a été saisi va maintenant être analysé pour tenter de savoir si le fugitif a eu des contacts avec sa famille, ce qui pourrait permettre de le localiser, car le procès de l'assassinat doit s'ouvrir au mois de juin. Ces perquisitions étaient utiles, mais elles n'ont rien d'exceptionnel, selon maître Vincent Courcelles-Labrousse, l'avocat du frère de Claude Erignac.
Ça ne m'apparaît pas particulièrement étonnant, parce que ce sont des actes d'enquête courants que l'on peut voir dans des affaires criminelles où une personne est en fuite. Donc peut-être qu'on pense qu'il garde encore des liens avec ses proches ou avec sa famille, ou qu'en tout cas, depuis sa fuite, il aurait repris contact avec eux. Et peut-être que c'est l'idée des policiers d'aller voir sur place s'il n'y aurait pas des indices qui permettraient de le localiser à l'endroit où il est. Si on n'y va pas, on ne saura jamais s'il n'y avait pas quelque chose à trouver.
Est-ce que le procès qui va débuter au mois de juin sera tronqué si Yvan Colonin n'est pas dans le box des accusés?
Non, on ne peut pas dire qu'il sera tronqué. Mais c'est sûr que, je dirais, dans l'absolu, depuis l'origine, tout le monde regrette l'absence d'Yvan Colonna. On n'a pas un des personnages clés du dossier.
Et effectivement, l'absence d'Yvan Colonna n'empêche pas le procès de se tenir en juin 2003. Le procès du commando qui a fomenté l'assassinat du préfet Claude Erignac en Corse s'ouvre en juin 2003. Dans le box, 8 hommes. Mais il en manque un, Yvan Colonna, l'homme le plus recherché de France. Et alors que le procès dure depuis un mois, le raid interpelle Colonna. Christian Lambert, le patron de l'unité d'élite, raconte comment ça s'est passé. Et Nicolas Sarkozy, qui est à ses côtés, ne peut pas s'empêcher de donner des détails.
Nous avons surveillé 220 bergeries. Hier, donc le 4, nous étions, avec mon adjoint, nous avions mis un dispositif de surveillance sur la dernière bergerie à Olmeto. Sur le coup de 5 heures du matin, nous ne voyons rien, mais nous entendions des bruits de casseroles et un individu qui parlait avec les chèvres. Donc, nous avions bien compris que nous avions...
Pardon, Christian, c'est un détail qui est beaucoup plus important qu'il ne peut vous y paraître. C'était un des éléments que Yvan Colonna avait l'habitude de parler à haute voix avec les animaux dans les bergeries où il vivait.
Et sur le coup de 7h20 le matin, nous avons vu un individu sortir de cette bergerie. Il correspondait au signalement d'Yvan Colonna avec quelques transformations, notamment sur la corpulence, sur la chevelure et sur le fait qu'il portait barbe et moustache. À 12h50, on le voit ressortir avec un sac à dos et très rapidement, il part dans le maquis. À 19h15, deux fonctionnaires ont vu revenir notre individu. Il a été immédiatement interpellé. Il a tenté de prendre la fuite. Ensuite, il a été maîtrisé. On a eu confirmation en le regardant de près que c'était bien Yvan Colonna. D'ailleurs, peu de temps après, il reconnaissait qu'il s'appelait bien Yvan Colonna.
Sarkozy, finalement, a tenu sa promesse et Dominique Erignac, l'épouse du préfet assassiné, confie son soulagement.
Là, je ressens vraiment un grand soulagement parce que depuis longtemps, je crois que c'est vraiment la première bonne nouvelle depuis des années. Je l'ai appris, je rentrais du palais où se déroule le procès. En ouvrant la porte, le téléphone a sonné, mon fils a décroché, il m'a dit « c'est Monsieur Sarkozy qui te veut ». Voilà, il m'a dit « je voulais que vous soyez la première personne à apprendre que nous avons arrêté Yvan Colonna ». C'était une grande surprise et il y a un mois, nous avions eu un rendez-vous avec lui et nous avions senti et nous avions une petite lueur d'espoir quand nous sommes sortis avec mes enfants de ce rendez-vous. On avait l'impression que les choses avaient un peu bougé. Et ben voilà, on a été récompensés aujourd'hui. J'attends toujours la vérité et j'aimerais que Yvan Colonna dise sa vérité. Ses acolytes l'ont quand même accusé, donc il faut qu'il dise sa vérité. Ça a été vraiment ma quête depuis 5 ans.
Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, savoure évidemment cette victoire et quitte à pavoiser, il offre aux journalistes de quoi gratter leur papier, de quoi écrire la légende. Quelques heures plus tard, la presse déboule dans la dernière bergerie occupée par le fuyard.
Un refuge idéal. Dans sa bergerie perchée à flanc de montagne, Yvan Colonna avait l'électricité, la télévision par satellite et le téléphone. Tout le confort dans plusieurs bâtiments bien entretenus. Une petite maison en pierre pour l'habitation, un chalet en bois et des enclos pour les bêtes perdus au milieu d'oliviers et de blocs de roc. Des chiens, beaucoup de poules, des chèvres et même un paon, un système d'alerte naturel. En fait, un véritable domaine agricole, plusieurs hectares en escalier, totalement isolé, au bout d'un chemin de terre, la planque parfaite et récente pour ce voisin habitué des lieux.
C'est un peu perdu, hein. Il y a un chemin qui passe, une piste, c'est tout. C'est du maquis, hein.
c'est la campagne. Et on peut se, cacher quand on connaît le pays. À notre avis, il n'est pas là depuis longtemps parce que la bergerie a été cambriolée il y a à peu près 6 mois de ça.
Cette bergerie fonctionnait encore récemment. Des serviettes pondent sur des fils, du grain au sol a été distribué aux poules. Sous un arbre, un hamac tendu pour la sieste avec vue sur la mer. Dans la maison, un reste de la présence d'Ivan Colonna. Une photo représentant le fugitif avec son fils. Tout sourire.
Lors de son premier interrogatoire par la juge d'instruction, Ivan Colonna martèle qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat du préfet. Son avocat, maître de Appio, explique que si Colonna a pris le maquis, c'est parce qu'il se sentait piégé.
Ivan Colonna a expliqué qu'il n'avait jamais cherché à fuir la justice et que s'il était parti le 23 mai 1999, c'était dans un but bien précis, c'était pour récupérer des chèvres qui s'étaient échappées et qui avaient été attaquées par des chiens qu'il voulait soigner, et que lorsqu'il était revenu le 26 mai 1999, il avait vu qu'on le présentait à la une d'un média comme l'assassin présumé du préfet, comme un coupable, que la présomption d'innocence était bafouée, qu'on avait inscrit au haut de ce journal Wanted, et il a expliqué que c'était la raison qui l'avait poussé à prendre du recul pendant un certain nombre de mois, voire d'années.
4 ans, c'est long pour quelqu'un qui souhaite simplement prendre du recul. Comment il l'explique ?
4 ans, c'est peut-être long, mais l'atteinte à sa présomption d'innocence était considérable. Il a certainement eu à un moment peur de ne pas pouvoir se défendre, et aujourd'hui, il était très satisfait de pouvoir répondre précisément aux questions du juge d'instruction et de protester à nouveau pour la 3e fois de son innocence.
Ivan Colonna continuera à nier sa participation à l'assassinat du préfet. Malgré ses dénégations, il sera condamné pour l'assassinat du préfet Erignac et il écopera de la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. En mars 2022, Ivan Colonna sera tué par un islamiste dans la prison d'Arles. Il sera enterré en Corse, où ses obsèques rassembleront plusieurs milliers de personnes. La famille d'Ivan Colonna a attaqué l'État français.
Je ne t'ai pas vu partir, ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire après quelques années. Je ne t'ai pas vu partir, ton manteau est resté dans l'entrée. Depuis que je t'ai vu sourire en me rendant les clés, et après m'avoir dit en face mes 4 ou 5 vérités, l'amour ça passe ou ça casse, mais comme c'est déjà.
C'était Cassé, succès de Nolwenn Leroy en 2003. La chanteuse révélée par la Star Academy est restée 3 semaines en tête des ventes de singles avec ce titre.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
Le 24 février 2003, Bernard Loiseau, chef 3 étoiles au guide Michelin, se suicide après le service du déjeuner. À 52 ans, il était l'un des chefs français les plus connus du monde.
Bernard Loiseau a été retrouvé mort dans sa chambre en fin d'après-midi hier à son domicile de Saulieu, mort d'un coup de fusil de chasse. L'enquête privilégie la thèse du suicide. Une autopsie sera pratiquée dans la journée pour confirmer cette hypothèse. Immédiatement après l'annonce de ce décès tard hier soir, de très nombreux chefs étoilés ont tenu à rendre hommage au talent de Bernard Loiseau.
Bernard Loiseau était un chef très médiatique, statufié au musée Grévin. Il avait développé une marque à son nom. Il était le premier chef au monde coté en bourse. Sur Europe 1, son épouse confie qu'il était exténué.
Nous sommes tous atterrés, ne comprenant pas ce qui nous est arrivé, parce que Bernard Loiseau, c'était une réussite. Mais tout ça s'est fait au prix de 27-28 ans de travail harassant pour Bernard. Il n'a pensé qu'à ça, il n'a fait que cela, il n'a pas pris de vacances et nous étions toujours ouverts, donc aucun jour de fermeture. Et là, il arrivait à un point de fatigue tel que il a eu un coup de déprime. Cette fatigue lui a fait faire un acte insensé qui a dû se produire rapidement, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... On réfléchit dans ce genre de choses, mais là, c'est quelque chose d'impulsif. Bernard a toujours été quelqu'un d'excessif, vous le savez. Et là, il a fait ce qu'il a voulu, comme toujours. Ça fait 15 jours qu'il dit qu'il est déprimé, qu'il est démoralisé, mais Bernard a eu des périodes comme ça, vous savez. Tous ces êtres exceptionnels qui donnent cette impression d'assurance ont toujours une fragilité intérieure, ont toujours des périodes de doute très fort. Mais... On n'aurait pas pu penser que cela arriverait.
Très vite, un coupable est désigné. Les critiques gastronomiques, comme le confie le chef lyonnais Paul Bocuse, parrain de Loiseau dans le métier.
Bernard Loiseau est un homme qui sortait vraiment de rien, c'est-à-dire il avait fait une des plus belles maisons. En plus, il est marié avec 3 beaux enfants. Les guides l'ont tué, que ce soit M. Goemillo ou M. Simon, ils l'ont assassiné avec leurs articles, avec leur enlever des points, mettre des points. Donc il n'a pas pu supporter. Dimanche, il me parlait de ça, il me dit où je vais, vous comprenez, c'est pas possible. Et puis, il était très affecté de ça. Il se rend pas compte, vous comprenez, on a des métiers très stressants. Et donc, lui qui était un peu fragile, il a pas pu tenir.
Vous dites qu'ils l'ont tué?
Oui. Le Goemillo, il va enlever 2 points, je vois pas pourquoi, vous comprenez, pour faire de la pub pour leur machin. Ben là, ils vont en avoir de la pub comme ça, ils vont être servis, là. Et puis, François Simon qui enfonce le clou le samedi dans le Figaro, vous comprenez. Et puis moi, vous savez, les critiques, hein, c'est comme les eunuques. Ils savent, mais ils ne peuvent pas. Puis Bernard Loiseau était un fragile. On attaque Bocuse, lui, il n'a pas de soucis. Il a les pièces pour répondre, mais Bernard n'avait pas.
Pourtant, il avait l'air solide, ce
non,
gaillard.
Non, très fragile, monsieur. Et si vous voulez, il n'a pas pu supporter qu'on le dégrade, voilà.
Eh oui, le guide Goemillo venait de rétrograder la note de Bernard Loiseau de 19 sur 20 à 17 sur 20. Et puis le critique François Simon venait de signer une chronique négative dans Le Figaro. Il supputait que Bernard Loiseau allait perdre sa 3e étoile. Sur Europe 1, François Simon se défend d'avoir joué un rôle dans le geste suicidaire du chef.
Désigner les critiques gastronomiques comme un alibi ou comme des fautifs, je crois qu'on se trompe de cible. Ce qu'il faut dénoncer, c'est les cotations abusives où l'on parle de perfection et de paradis sur terre. Quand on pense aux 20 sur 20 donnés par Goemillo, on enferme des chefs formidables, comme l'était Bernard Loiseau, dans un univers de rêve. Et quand les chefs en ressortent, ils vivent comme une blessure, le moindre reproche, vous comprenez ?
Parce que vous aviez écrit, par exemple, que son adresse était légitimement menacée pour la 3e
oui,
étoile.
Oui, mais ça, c'est une information journalistique, c'est-à-dire que le guide Michelin se posait des questions, et moi, en tant que critique gastronomique, je disais plusieurs fois, et c'est vrai que les 3 étoiles n'étaient pas toujours évidentes, mais le problème, c'est que la gastronomie a souvent été surprotégée, dans une sorte de cocon qui était extrêmement dithyrambique. Et lorsque la critique arrive dans la maisonnée, c'est souvent vécu de façon effroyable.
Mais vous, quand vous écrivez justement, vous vous rendez compte de ça ?
Oui, on fait très attention à ce que l'on dit. Et il ne faut surtout pas traiter les critiques de chiens. Je pense comme on porte des jugements sur une politique, sur un livre, sur un tableau. Je pense que la table n'échappe pas à ce regard.
Quelques jours plus tard, le monde de la grande cuisine assiste aux funérailles du chef Loiseau.
Dans la basilique de Saulieu, qui surplombe le restaurant La Côte d'Or, ils sont une dizaine de grands chefs à saluer une dernière fois Bernard Loiseau. L'instant est celui du recueillement. Paul Bocuse, très ému, laisse poindre le désarroi davantage que la révolte.
Une fois encore, tu nous as doublés et te voilà à nouveau le premier. Comme toujours, tu as brûlé les étapes, mais je ne doute pas que tu sauras faire la mise en place là-haut pour mon arrivée prochaine. À bientôt. Salut Bernard, l'oiseau s'est envolé, mais tu resteras toujours dans nos cœurs.
Dans la nef, comme dans la salle qui accueille les messages de condoléances, des photos du cuisinier disparu, air jovial, sourire avenant. Peut-être nous n'avons pas su l'accompagner, s'interroge le prêtre, relayé par le chef gersois André Daguin.
Lui, il n'était que sourire. Il souriait quand il était inquiet. Il était inquiet tout le temps, il souriait tout le temps. Les cuisiniers aiment, et leurs colères ne sont que du dépit amoureux envers ceux qui deux fois par jour viennent les juger, et quelquefois les jugent mal.
Dès lundi, le restaurant 3 étoiles de Saulieu rouvrira ses cuisines. Un seul souhait de la part du maire de la commune, que le nom de Bernard Loiseau reste en grand sur la façade de l'établissement. À Saulieu, Mathieu Delahousse, Europe 1.
L'épouse de Bernard Loiseau et ses enfants reprendront finalement le groupe. Le restaurant existe toujours à Saulieu. Il a aujourd'hui 2 étoiles au guide Michelin.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot. Espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
C'était C'est quand le bonheur, succès de Cali en 2003. Le titre s'est écoulé à plus de 400 000 exemplaires.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
En 2003, les Rolling Stones ont 2 événements à célébrer. D'abord les 40 ans du groupe, et aussi les 60 ans de Mick Jagger et de Keith Richards. I can't afford a jacket. I wish somebody come along and run it, join the racket. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I'm on, sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. 40 ans après la sortie de leur premier single, Common, en 63, les Stones repartent en tournée mondiale. Et cette tournée passe par la France. C'est Marseille qui ouvre le bal, le 5 juillet 2003.
C'est un mythe et c'est une formidable machine qui débarque ce soir à Marseille. Le mythe Rolling Stones, seul groupe de rock issu des années 60, qui continue à enregistrer et à se produire sur scène avec 3 de ses membres fondateurs. La machine Rolling Stones, une tournée de 100 dates en un an sur les 5 continents. Pour la première fois, les Stones ont joué en Asie, 105 camions en permanence sur les routes, 300 personnes pour l'organisation d'un seul concert, bénéfice net 130 millions de dollars. Les Rolling Stones touchent aujourd'hui leur troisième génération de public. Romain Vivien, le responsable du marketing international chez Virgin.
Ah, ils sont étonnants. D'abord, ils sont, je crois, extrêmement contents de revenir sur scène. Pour la première fois, ils ont répété, je crois, 200 titres de leur répertoire, ce qui leur permet de faire des titres soit qu'ils ne jouaient plus depuis des années, soit qu'ils n'ont même jamais joué sur scène, et surtout à changer leur répertoire tous les soirs. C'est-à-dire qu'il y a entre 30 et 50% du track listing, de la setlist, qui change selon les concerts. Donc c'est selon leur humeur aussi. Il y a des clubs, par exemple, aux États-Unis, où ils ont fait l'intégralité d'un album, l'intégralité d'Exile on Main Street, où il y a une soirée où ils ont fait que des morceaux très blues. Donc voilà, donc pour les fans, il faudrait pratiquement faire toutes les dates pour avoir tout le répertoire et toutes les ambiances.
Après Marseille, les sexagénaires débarquent à Paris au Palais Omnisport de Bercy.
Plus que quelques minutes de patience pour Aurélien qui sera à 18h30 le premier à entrer dans Bercy. Ce fan venu exprès de Rouen attend contre les barrières depuis hier après-midi.
Moi ça fait 30 heures que j'attends ici. Moi je me considère comme le fan des Rolling Stones. Voilà. On a dormi là par terre devant. Alors c'est nous qui méritons d'être là en premier là-bas. Quoi.
Olivier arrive de Chartres avec sa femme mais sans sa fille qu'il a appelée Angie.
Angel, you can say we never try.
C'est un peu la bande originale du film de ma vie, quoi.
Isabelle termine la biographie des Stones, signée François Bon. Le livre est dans son sac et elle rêve d'un autographe de Mick Jagger et Keith Richards.
Cette guitare-là, cette voix-là, je veux dire, c'est tout un symbole, toute une époque, ouais.
I can get no satisfaction.
Casquette, t-shirt, Jean-Marie s'est habillé Stones, la langue rouge est partout. Pour les trois concerts parisiens, il a bloqué sa semaine.
Bercy ce soir, Stade de France mercredi, et si c'est possible, Olympia vendredi. J'ai pas réussi à avoir de place, mais j'essaierai de prendre une photo quand même avec l'Olympia, avec les Rolling Stones en façade. Et je dirais que j'y suis allé quand même si j'ai pas pu rentrer.
Dernier espoir, les ultimes billets qui pourraient être mis en vente vendredi matin. Devant le Palais Omnisport de Bercy, Benjamin Vincent, Europe 1.
Mais en 2003, les Stones se produisent aussi dans une salle beaucoup plus petite que Bercy. Une salle de 2000 places, l'Olympia. On annonce le concert du siècle.
Les Rolling Stones ont donné à l'Olympia leur troisième et dernier concert parisien. Pour accéder à l'Olympe, il fallait avoir le bracelet bleu, le commun des mortels, ceux qui avaient payé leur place, ou le bracelet rose, réservé aux dieux, demi-dieux, et à leurs proches comme Jack Lang, le maire de Blois, et le voisin du châtelain de Possé-sur-Cisse, Mick Jagger. Extase générale que vous fait partager Laurent Delpech.
21h40, les projecteurs blancs éblouissent la foule. Les Rolling Stones remontent sur la scène de l'Olympia. Un premier quart d'heure musclé, après quelques mots d'accueil du maître des lieux, veste noire sur chemise bleue et t-shirt voodoo blanc. La scène est baignée de vert, puis de bleu, lumière douce pour une demi-heure magique, acoustique. Mick Jagger et Keith Richards assis à la guitare face à une marée de briquets et de mains tendues. Et puis doucement tout redémarre, Like Rolling Stone, la reprise de Bob Dylan. 22h45, I Go Wild, sur fond rouge et jaune, le décor change, un fil tendu derrière la batterie et de chaque côté de grands rideaux façon panthère. Face à un public qu'il peut presque toucher, Jagger en fait des tonnes, ses déhanchements sauvages font chavirer les fans du premier rang, les évanouis sont évacués.
Après deux rappels, le batteur Charlie Watts balance ses baguettes, le concert est terminé. Et les fans, bien sûr, en voulaient encore. Au micro d'Europe 1, les VIP sont comblés.
Carla Bruni.
C'était super, bravo, merveilleux, fantastique.
Patrick Bruel.
C'était magnifique.
Et Étienne Rodagil.
C'est dans ces conditions-là que ça vaut le coup de les voir. Là, c'est du rock'n'roll.
Et Jack Lang.
Formidable.
Oui.
Formidable. Bon, on a vécu un moment fort quand même, non? Je crois que c'est un concert qui restera dans la mémoire. Hein.
Les 2500 spectateurs de l'Olympia n'ont pas fini de rêver à cette soirée. Les autres pourront écouter le concert à la rentrée. Tout a été enregistré.
Et voilà ce que ça donne, les papis du rock à l'Olympia. C'était un extrait du concert des Rolling Stones à l'Olympia en 2003 et c'est avec les papis du rock que nous allons conclure notre quatrième épisode. Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski m'ont aidé à le bâtir. La suite de notre exploration de l'année 2003 dans le cinquième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.